Eh bien, nous allons passer à la partie discussion. Nous avons trois discutants pour cette séance. Donc, je donnerai successivement la parole à Livia Appa, Jean-Paul Collen et Jean-Luc Racine. Donc, Livia, je te laisse la parole en premier.
Bon, je veux essayer de poser des questions surtout sur la communication de Jean-Paolo. Je veux d'abord dire que moi, je ne travaille pas avec l'histoire. Ma formation, c'est de littérature et d'études culturelles. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai un regard un peu différent sur toutes ces questions. La question que, évidemment, se pose pour moi, c'est que la communication de Jean-Paolo, mais aussi la communication des autres deux conférenciers, c'est une question très facile, entre guillemets, que c'est la question de la narration. Comment on peut raconter l'histoire, comment on peut raconter une fracture, comment la fracture représentée pour la fin des empires. Et je trouve que dans ces cas, la situation du Mozambique, que c'est une situation un peu spécifique dans le cadre du pays lusophone, c'est une situation qui nous aide beaucoup à réfléchir, qui nous donne des pistes de réflexion très intéressantes. La première, qui a indiqué déjà pour Jean-Paolo, c'est la question, je trouve que dans la communication de Jean-Paolo, il y avait un passage très important qui s'applique très bien au cas de Mozambique, mais de quelque forme aussi au cas de l'Angola, que c'est la question comment l'État, à partir du moment que commence à construire, entre guillemets, la nation, commence à construire un processus de mémoire collective et un processus de mémoire collective que passe aussi pour la question de l'identité et de la même narration de l'identité de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant dans la communication de Jean-Paolo la distinction qu'il fait avec d'une forme très claire entre la mémoire politique et la mémoire collective. Parce que ça qui se passe au Mozambique, c'est dans la littérature une chose très, très simple qui est que la nation existe avant de la nation existir. Et comme ça, la question de la mémoire, de la mémoire littéraire du Mozambique, c'est quelque chose qui est très important pour toute l'intervention aussi des mouvements de libération. Mais aussi la mémoire que la littérature est capable de créer, c'est aussi, c'est vrai que c'est, je pense à des poètes comme Craverini, Noemia de Souza, de la génération des années 50, mais c'est aussi une génération qui sont des écrivains qui sont partis d'une demi-élite culturelle, mais qui dans l'écriture de cet écrivain, c'est vrai que même après l'indépendance, les Mozambicains reconnaissent les racines de la lutte anticoloniale. Et je trouve que ça, c'est un passage très important, c'est un peu le clivage que Jean-Paul a indiqué entre les discours de Frelimo, de la poésie de combat et tout ça, et la poésie des écrivains anticolonialistes, que c'est encore une poésie, entre guillemets, collective, beaucoup plus que la littérature de combat. Je pense que ce passage, c'était très important dans la communication de Jean-Paolo, parce qu'il nous pose exactement la question de, à partir de ce moment, quelle est la fonction de la littérature d'un pays comme Mozambique, qui est l'écrivain mozambicain, et son engagement avec la réalité fonctionne comment aujourd'hui. Je pense qu'on a vu le grand privilège d'avoir Jean-Paolo aujourd'hui avec nous, parce que Jean-Paolo, il est un écrivain, il est un historien, mais surtout, il est quelqu'un qui fait les choses dans son pays. Il a une intervention directe dans la société mozambicaine. Et j'ai trouvé que les regards et les regards de Jean-Paolo que je trouve dans la littérature qu'il a produit dans les dernières années nous indiquent exactement ça. La relation possible et nécessaire entre la mémoire collective et la mémoire politique, et comment l'écrivain, comme quelqu'un qui est capable de produire un ouvrage individuel, peut incider aujourd'hui dans la société. C'est une question exactement à travers le repêchage de l'histoire que la littérature de Jean-Paolo colloque d'un fond très fort pour moi. C'est évident que une chose qui est très intéressante dans les contextes lusophones, je n'aime pas les mots, mais c'est pour il faut l'utiliser, c'est que plusieurs écrivains sont des scientifiques sociaux. Je pense à Jean-Paolo, je pense au cas de l'Angola, Rui Duarte de Carvalho, Arlindo Barbeito, Shanna Paula Tavares. Et ça me donne une perspective différente, un peu, qui travaille un peu dans les questions posées pour Jean-Paolo, que c'est exactement ça, c'est quelque chose qui me donne une perspective intéressante sur la question de, autrefois, de la narration. C'est une espèce de nécessité de disperser la narration, d'essayer plusieurs formes de narration pour arriver exactement à les racontes, finalement, non? À l'objet. Autres choses que j'ai trouvées très importantes dans les travaux présentés pour Jean-Paolo, et que je trouve qu'il travaille un peu comme un écran, non? Et que dans les contextes lusophones, c'est une question très importante, c'est la question de la critique littéraire dans les contextes lusophones. Parce que si c'est vrai, évidemment, que la littérature est en forme de narration, c'est vrai aussi que la critique littéraire, surtout dans les contextes mozambicains, était en forme de narration de la nation. Un exemple, pendant les années 70 et 80, plusieurs critiques ont travaillé sur la question de la mozambicanité ou absence, présence de la mozambicanité des écrivains du pays. Et cette forme de légitimation, c'était quelque chose qui a légitimé aussi, évidemment, l'identité de la nation. Ça que c'est intéressant, que ce type de critique, c'était une critique produite dehors du Mozambique, surtout au Portugal, surtout pour des académiques qui sont nés au Mozambique, qui sont sortis après la révolution des esclaves. Et c'est pour ça que je pense que ça c'est une question très importante sur laquelle réfléchir, parce que la critique a été quelque chose qui a travaillé un peu comme une narration qui a soutenu les discours du pouvoir. C'était une question très importante, je trouve, dans les cases mozambicaines. Et finalement, la critique littéraire qui maintenant, finalement, commence à avoir des auteurs endogènes, des Mozambicains qui commencent à réfléchir sur sa propre littérature, nous pose évidemment la question des sources. Hein. Quelles sont les sources qu'on va travailler quand on essaie de créer un discours sur le corpus de la littérature mozambicaine? Et je trouve que le discours que Jean-Paul a fait sur la question, non, de la complexité, cet appel à la complexité par exemple, les discours sur le témoignage, tout ça, c'est quelque chose qui s'applique aussi à les discours soutenus pour la critique. Et je trouve que autre chose importante, et c'est la dernière chose que je veux remarquer dans la communication de Jean-Paul, c'est la forme comment cette pensée critique sur la littérature a beaucoup aligné la littérature des autres sciences sociales. C'est-à-dire, la littérature, c'était quelque chose qui a été, et la critique littéraire, c'était quelque chose qui a donné la légitimité à des formes culturelles mozambicaine, mais a complètement aligné les pensées sur la littérature du contact très fécond, très important avec l'histoire, avec l'anthropologie, avec la sociologie. Et c'est seulement maintenant que commence à avoir réellement un processus de dire ensemble toutes les choses. Et que c'est exactement ce processus de complexité que Jean-Paul a très bien bossé dans son travail. Et c'est tout pour moi. Merci.
Bon, alors on enchaîne brutalement, alors on y va, hein. 10 minutes maximum. J'étais très stimulé par toutes ces réflexions là sur une sorte de charnière esthétique par rapport à l'ensemble de nos autres débats de ces deux jours là. Et donc, je suis frappé par le rôle des artistes comme penseurs. En réalité, ils ont un rôle comme penseurs très important parce qu'ils ne sont pas soumis au processus de vérification et au protocole d'assertion de la preuve comme sont toujours tentés de le faire les chercheurs en sciences sociales. Et donc, ils peuvent prendre des raccourcis qui sont extrêmement frappants et qui, sans doute, contribuent, même pour les chercheurs en sciences sociales, à façonner, bien plus qu'ils ne le croient, leurs idées, leurs opinions, etc. Ce qui fait que je pense que, contrairement à ce qu'estiment un certain nombre de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, etc., l'audace théorique vient parfois des artistes. Et donc on le voit très bien, même s'ils le payent parfois de leur vie, hein, ça ne marche pas toujours, mais ils rusent toujours avec des systèmes dictatoriaux, des empires, etc. Et parfois, les compromis qu'ils proposent ne leur permettent pas de survivre, mais ils ont quand même ce rôle important. Et alors on a cette réflexion, je trouve, très passionnante sur... Et ça, j'aimerais bien en entendre plus, parce que tu nous as donné beaucoup d'informations, parce que tu as compris qu'on ne connaissait pas bien cette zone et cette époque, mais sur le rôle même de la fiction et sur les différents types de fiction qui sont à l'œuvre, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, puisqu'on a cette idée qu'on doit faire une histoire avec des témoignages, puisqu'il n'y a pas d'archives, puisqu'elles sont bloquées. Mais en même temps, on sait bien que les témoignages n'ont pas exactement la même possibilité de contextualisation historique que les archives. On en prend un exemple très simple dans l'histoire de France. Le maréchal Pétain, jusqu'à il y a quelques semaines, était quand même une figure relativement indemne, qui s'en était sortie indemne, si on veut, des procès de l'histoire, jusqu'à ce qu'on trouve tout récemment une lettre signée pour un dispositif législatif antisémite, clair. Et donc, l'histoire est changée par une simple signature au bas d'une lettre. Et donc, on a différents types de fiction, puisqu'on a une invitation dans la fiction artistique, une invitation ludique à réfléchir sur une histoire comme exercice de pensée. Je dis ludique, même si c'est grave, même si c'est dramatique, même s'il y a de la mort, etc. C'est une invitation à faire un exercice de pensée. Puis, on a des fictions qui sont... inconsciente de gens sincères qui pensent que le maréchal Pétain est un type formidable, etc. C'est pas des forgeries, c'est pas des inventions machiavéliques pour traverser. C'est l'histoire de France officielle est pleine de fiction. à compenser par les Gaulois, etc. Enfin, quand on analyse un peu dans le détail, il y en a beaucoup. Et donc, c'est des fictions qui ne sont pas des invitations à jouer. C'est des fictions sincères, c'est des erreurs, c'est des mensonges, c'est des fabrications. Parfois au nom de l'histoire, parfois au nom de la science aussi. Donc c'est un deuxième type de fiction. Et puis il y en a un troisième, si on veut, c'est nos réflexions à nous. Dans nos... Et ça, je trouve que ce serait assez passionnant d'ouvrir des discussions avec des artistes. Comment est-ce que les gens qui font des films sur la corruption en Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'ils étayent leur raisonnement, comment est-ce qu'ils établissent leurs convictions, etc. Donc je trouve que c'est une formidable invitation à un ordre de réflexion sur la littérature, la première révolte qui vient de la poésie, tout ça, c'est quand même surprenant. Hein. Et donc la guerre civile comme tabou, comme thème fort clos par la pensée, sans que personne ne l'ait nécessairement proclamé d'une manière législative. Et puis dans l'exposé de... Ah, je ne sais pas comment on prononce...
Nive,
bon, très bien.
Je vais dire Nive Galibert.
D'accord, Nive Galibert, d'accord. Là, j'ai trouvé aussi quelque chose d'assez passionnant sur l'espèce de relation amour-haine envers la République, puisqu'on parle d'empire, mais enfin, c'est surtout l'ordre républicain, là, dans ce qu'elle a d'impérial, justement, et qui est quand même une République qui, globalement, pour les anciens de la périphérie, est une mauvaise mère. Et donc, on a eu des sentiments extrêmement ambigus, avec ce résultat que, d'une certaine manière, la création est muselée, tu as employé le terme muselée, je crois, à cause de l'aide qu'elle reçoit, et qu'elle reçoit paradoxalement de la gauche institutionnelle qui pense qu'elle a des devoirs envers l'Afrique. Et donc, on est dans un paradoxe formidable, parce qu'il y a plein de gens qui disent l'Afrique, on s'en fout, et ils nous embêtent, etc. Et ils viennent chez nous, on leur a rien demandé, etc. Il y a un retour du cartiérisme qui est formidable en France aujourd'hui. Et donc, face à ça, on a une sorte de gauche institutionnelle qui essaye un peu pathétiquement de réparer les pots cassés un peu et de garder une fraternité, de continuer à aider. Et l'ambiguïté de cette aide finit par se retourner dans une sorte de muselage, hein, dans une sorte de récupération trop évidente qui est soulignée par beaucoup dans la littérature critique américaine aujourd'hui. Par rapport à, si vous prenez tous les bouquins sur le cinéma africain écrits par des chercheurs américains, qu'ils soient African-American ou américains, il y a partout cette idée que la France récupère, rachète, achète les artistes, enfin, pour défendre sa propre cause. Donc cet amour-haine me paraît vraiment très très intéressant à étudier et à confronter avec les acteurs. Je dirais que dans les acteurs culturels, on aurait des discussions un peu soutenues à avoir. Et je crois que là, il y a peut-être une époque historique à tourner, à franchir, pour s'affranchir de ça. Alors, en ce qui concerne le cinéma, j'ai trouvé extrêmement passionnant ces films-là, que j'ignorais totalement, y compris pour leur beauté plastique, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très intéressantes. Et bon, là, je pense qu'il y a des parallèles aussi à faire avec... je pense par exemple aux cinéastes du Ghana, au moment de l'indépendance, qui ont essayé de faire... Je me souviens d'un film qui s'appelait, je crois, Blossom Field, qui est un cadre ghanéen de l'administration coloniale qui remplit ses devoirs envers l'administration. Il a un poste, je ne sais plus s'il est gouverneur, enfin, il a un poste avec responsabilité militaire. Et puis, lentement, c'est un film de Anxa, j'ai oublié son prénom, mais peut-être quelqu'un le connaît ici, qui est une grande figure du cinéma ghanéen. Progressivement, il comprend qu'il va tuer les membres de sa propre famille en exerçant la loi coloniale. Et donc, il y a une prise de conscience formidable. C'est un film très, très intéressant. Et on voit un peu la même ambiance que cette espèce de... Alors, c'est assez, d'ailleurs, pathétique. La conviction bolchevique de quelqu'un qui est en même temps attaché à la liberté de son pays et en même temps sincèrement bolchevique et ne parvient pas à faire un compromis qui lui fasse échapper finalement au peloton d'exécution. Et donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, un thème tout à fait colonial, enfin au sens très propre du terme. Voilà, bon, je crois je suis à peu près... c'est ça que ça voulait dire ? Bon, voilà, c'est une invitation à réfléchir là-dessus.
Donc, merci Jean-Paul. Jean-Luc Racine.
Pardon, merci beaucoup. Je suppose que c'est au nom du principe d'incompétence que je suis à cette tribune, parce que je ne suis ni spécialiste de l'Afrique, ni spécialiste de l'Asie centrale, ni spécialiste des questions culturelles. Mais on a peut-être cherché un peu de distanciation, essayé de mêler tout ça à ce qui est mon champ de recherche, mais qui a déjà été illustré au moins par trois fois dans les séances précédentes, auxquelles je n'ai pas pu assister, selon la formule rituelle. Mon champ d'étude étant l'Inde d'aujourd'hui. Donc ce que je vais essayer de faire dans les maintenant 9 minutes qui me restent, c'est de croiser la façon dont j'ai pu réagir aux trois exposés et quel écho indien je peux y donner dans un contexte qui est celui de la fin des empires. Et ça sera à vous de voir si cette posture peut apporter quelque chose. Moi, pour ma part, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai pu tirer des trois interventions. Pour rebondir sur le point que vous aviez souligné sur le fait que la littérature permet ou trouve une place qui n'est pas accordée à l'histoire. Là, je ne vais pas être dans le champ indien, je vais être dans le champ chinois, où Sébastien Weg, qui vient de publier il y a quelques mois sa thèse aux éditions de l'École et qui travaille sur la littérature chinoise, a montré comment, dans un contexte de surveillance des sciences sociales, y compris de l'histoire, mais aussi des sciences sociales traitant du présent, la littérature permet de parler de choses dont les chercheurs ont du mal à parler. La remarque qui a été faite de la même façon sur les artistes comme penseurs, là, je crois qu'il n'y a aucun doute. Enfin, en tout cas, quand sont des artistes d'envergure, quel que soit du reste leur champ d'expression, qu'il s'agisse de la littérature, des arts plastiques, ou du cinéma. Je reviendrai d'ailleurs rapidement sur le cinéma en évoquant Satyajit Ray. Il y a eu comme ça, donc, pas mal de recoupements. Si je prends la question de l'histoire, alors là, bon, évidemment, je parle avec Sanjay Subramaniam dans la salle, donc c'est un peu embêtant pour moi d'évoquer l'histoire.
On peut lui demander de sortir, si
vous voulez. Oui, non, il sait qu'il est plus que bienvenu. D'ailleurs, il est chez lui, ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin des empires. Alors, j'apprécie le point d'interrogation. Moi, ma ligne d'interprétation de l'Inde d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus postcoloniale, elle est post-postcoloniale. C'est-à-dire qu'un tournant décisif s'est produit à la fin des années 90 et s'est renforcé au début des années 2000. La page postcoloniale a été tournée. On est maintenant dans un autre contexte. Et évidemment, quand j'entends ce que vous citez d'Alain Babankou, disant la colonisation, c'est super. Bon, évidemment, on peut le prendre avec soit l'antithèse, soit le recul de la provocation. Mais moi, c'est pas du tout ça.
Je fais parler un personnage.
Oui, mais non, c'est quand même une phrase qu'il faut oser. Hein. Mais moi, je transfère ça complètement sur le champ politique, et c'est plus la colonisation, c'est super, mais c'est le discours du premier ministre indien Manmohan Singh en 2006 à Oxford, et qui dit en substance, non pas la colonisation, c'est super, mais en gros, la colonisation, c'est digéré. C'est-à-dire, un premier ministre en exercice peut se permettre, devant un aréopage académique, de dire, évidemment, on a bien fait de se révolter contre les Britanniques. Mais avec le recul du temps, on peut aussi reconnaître que tout ce qu'ils nous ont apporté n'était pas négatif. Alors évidemment, à l'extrême droite, comme à l'extrême gauche, tout le monde est monté en créneau en disant « Qu'est-ce que c'est que ce Premier ministre néolibéral qui est en train le chien couché devant, etc. » Mais il m'a semblé que c'était véritablement un tournant porteur de tout le poids de la fonction de l'orateur, qui voulait bien dire, d'ailleurs il l'a dit à sa façon, aujourd'hui on a confiance en nous, on peut regarder l'avenir d'une autre façon, on n'oublie rien, ni des temps coloniaux, ni du postcolonial avec la figure emblématique de Nehru, mais maintenant on peut nous, se regarder nous et regarder le monde sous un autre œil. Et ça, évidemment, là, dans ce cas-là, à la fin des empires, il n'y a plus de point d'interrogation, pour reprendre le titre que vous donnez. On pourrait multiplier comme ça, hein, s'agissant des historiens, comment les critiques des historiens coloniaux par ceux qu'on va appeler les historiens nationaux ou nationalistes ont elles-mêmes été reprises par les subalternistes en disant « Mais finalement, les historiens nationalistes indiens, soit tout à fait de la fin de l'ère coloniale, soit dans les décennies, justement, postcoloniales, ben, ils ont repris finalement le même schéma. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce dont on ne parle pas. C'est les subalternes. » Il y avait évidemment un arrière-fond marxiste là-dedans. Et on retrouve votre formule « La nation subjugue la classe ». Remettons la classe. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que ces subalternistes qui ont fait, évidemment, qui ont connu le succès que l'on sait dans les grandes universités américaines, sont eux-mêmes victimes des néo-marxistes qui leur disent, mais à force de parler des subalternes et de les mettre en avant, vous oubliez aussi ce qu'est la classe, parce que souvent votre discours subalterniste renvoie au précolonial, voire idéalise le précolonial. Donc on a des champs, évidemment, sur lesquels on peut aller très, très loin. J'imagine qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Donc, en parcours cursif, la grande différence, me semble-t-il, entre le cas indien et les cas qui ont été évoqués ici, c'est qu'évidemment, l'Inde a eu des romanciers très importants dès la fin du 19e et du début du 20e, qui n'étaient pas uniquement déjà des romanciers anticoloniaux, mais qui ont porté, avant les politiques, d'une certaine façon, un projet qui allait devenir le projet nationaliste. Et là, on a des textes multiples. Si on se tourne vers le cinéma, qui est évidemment un peu ultérieur, là, on a aussi des choses qui, finalement, ne se posent pas ces questions. On a, bon, ça qui a dit très beaucoup de films très classiques sur ce qu'a été ce qu'on a appelé d'une certaine façon la Renaissance indienne, c'est-à-dire cette espèce de contact entre, d'un côté, l'héritage de la culture indienne, la cristallisation de la philosophie des Lumières par le biais des Britanniques, plus l'injection de l'influence du mouvement communiste, quand on agite tout ça. Et les trois se croisent particulièrement à Calcutta. Et là, là-dessus, au moins, j'ai fait un petit travail sur la culture de Calcutta dans ces années de la fin de l'Empire colonial. Là, on voit bien ce qu'a été, d'une certaine façon, le mot hybridation avait été employé, hein, les entre-deux. Entre ce qu'est l'impact du colonialisme, la jeunesse du nationalisme, les complexités, où se positionne-t-on, quelle intersection entre les cultures. Et puis on a aujourd'hui, aussi bien dans le cinéma que dans la littérature, des gens que je vais appeler post-postcoloniaux. Quand on a cet écrivain qui fait un livre qui, je crois, a été porté à l'écran, qui s'appelle « A Night on the Call Center », sur la vie dans les centres d'appel, on est vraiment là, dans l'Inde, de Bombay, de Bangalore, globalement connecté. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc finalement, et je conclurai... je ne conclurai pas là-dessus. Avant de conclure là-dessus... un mot sur les littératures indiennes à l'heure de la globalisation. Parce que très clairement, et alors ça se voit bien quand on fréquente les salons du livre où les auteurs indiens sont invités, on a d'un côté les icônes anglophones globalisées, dont évidemment Salman Rushdie est le prophète. Et il y en a beaucoup d'autres. Après, on a une deuxième catégorie des auteurs indiens vivant en Inde, écrivant en anglais. Et ensuite, on a une troisième catégorie, des auteurs indiens éventuellement anglophones, mais écrivant en langues indiennes, et parfois traduisant leurs propres romans en anglais, mais pas toujours. Et on sent, quand on les voit tous les trois catégories ensemble, qu'il y a parfois quelques frictions. Mais quand on prend justement quelqu'un comme Rushdie, je laisse de côté Naipaul, parce que Naipaul n'est pas vraiment indien, même s'il est d'origine indienne. Et la façon dont il parle de l'Inde, elle est d'une certaine façon très modèle colonial, l'Inde des révoltes, il n'y a rien qui marche, etc. Mais quand on prend Rushdie, le succès emblématique d'un Rushdie ou de tous les écrivains qui ont eu des prix, alors là on retombe sur la question des prix, mais qui ont eu des prix internationaux, le Booker Prize, etc. Dans les années, on va dire, dans les années 80, pour moi, ce sont les signes culturels qui annoncent 15 ou 20 ans à l'avance ce qui va se passer sur le plan économique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, alors bon, c'est un peu acrobatique, hein, Rushdie annonce Mittal. Mais ça se passe 15 ans avant. C'est-à-dire qu'un Indien de la diaspora bat à leur propre jeu, au sein même de ce que j'appelle, faute de mieux, l'Occident, les acteurs occidentaux, le premier dans la littérature, le deuxième dans l'industrie ou dans l'économie. Ce qui veut dire, et cette fois je conclue véritablement, en reprenant encore une fois ce que vous citiez d'Alain Mambacou, et là je pense qu'il n'y a plus ou d'ironie ou de recul, le centre n'est plus le centre. C'est-à-dire qu'on est véritablement, dans le plan culturel comme dans le plan géopolitique, dans un monde qui est devenu plus que jamais multipolaire, même si évidemment tous les pôles ne pèsent pas toujours le même poids. Merci.
Merci beaucoup d'avoir tous respecté le temps qui vous était donné. Alors, tout d'abord, je demande aux intervenants de cet après-midi s'ils ont des réponses à donner ou des remarques à faire concernant ces...
Oui,
Nive, oui. Vas-y.
Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que effectivement, le rôle des artistes comme penseurs, ça n'est plus à démontrer, que l'audace théorique vienne des artistes. Moi, mon sujet, c'était Mongo Betty au départ. Hein. Donc là, vraiment, on voit dans le parcours de toute la vie de Mongo Betty comment, en voulant secouer la littérature, il en a pâti. Et on peut même dire qu'il est mort d'une sorte d'ulcère, d'avoir été violenté par son propre pays. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le culturel a toujours précédé le politique, c'est-à-dire surtout que les hommes ont toujours écrit des poèmes avant d'écrire des essais. Quand je pense à Damas, à Césaire et aux autres. Bon, maintenant, je crois qu'il faut faire la part quand même entre l'avant-garde et la littérature classique. Surtout qu'il vient de paraître un dictionnaire de la littérature francophone classique de Christiane Chollet-Achour avec la collaboration de Corinne Blanchard. C'est paru chez Honoré Champion, là, en 2010. 466 pages, et ça date d'un mois. Donc il y a maintenant 105 écrivains qui sont répertoriés comme classiques. Et on n'y retrouve pas tous les écrivains francophones. Donc il y a bien une avant-garde et il y a une littérature désormais classique. Maintenant, la gauche institutionnelle qui muselle, elle est là, elle est bien là. Et la preuve, c'est que... Il sort régulièrement les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles chez une éditrice Jutta Hebte, chez Vendailleur, qui était basée auparavant en Martinique et qui est maintenant à La Roque-d'Anthéron. Les dernières nouvelles du colonialisme. Les nouvelles, il ne s'agit pas de nouvelles informations, mais de nouvelles génériques, hein, c'est-à-dire des récits courts. Ce sont des maisons qui sont subventionnées effectivement par la gauche, par les institutions de gauche. Mais à côté de cela, et ça on ne le sait pas, eh bien il y a des institutions, et c'est ça qui est très dangereux, de droite, qui soutiennent les écrivains francophones. Par exemple, moi, personnellement, en tant que critique littéraire, je viens de recevoir une convocation de l'Académie des sciences d'outre-mer pour l'élection de l'homme de l'Afrique 2010, à l'occasion de l'indépendance du cinquantenaire des indépendances. Et on sait ce qu'est l'Académie des sciences d'outre-mer, qui a été créée il y a maintenant, je ne sais plus, 100... Et en même temps, on sait que les mêmes auteurs, Waberi, concourent partout, c'est-à-dire qu'ils mangent à tous les râteliers pour subsister. Hein? Waberi, il est moult fois primé, mais aussi bien par la gauche que par la droite. Donc, c'est ça qui fait de ces écrivains des phénomènes hybrides, parce que c'est selon les critères demandés par les institutions en question qu'ils écrivent. La preuve, c'est Dany Laferrière qui, la même année, en 2008, a composé Vers le Sud sur un sujet qui allait marcher, l'histoire d'une femme occidentale, la cinquantaine bien sonnée, qui va aller en Haïti trouver un Haïtien jeune et beau, hein, parce qu'elle en a besoin, n'est-ce pas ? Et c'était incarné à l'écran par Charlotte Rampling. Ça se vend. C'est bankable. Donc, Dany Laferrière a écrit cela. Mais la même année, il a écrit un bijou qui s'appelait « Les années 80 dans ma vieille Ford ou Chevrolet ». Ford. Et c'est un bijou. Il parle de son Haïti natal, vraiment avec le cœur et non pas poussé par l'argent. Donc, il y a une forme de prostitution, entre guillemets, à cause de cette colonisation mal digérée. Je dirais mal digérée. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie.
Merci, Nive. Maintenant, je passe la parole à João Paulo.
Avec le risque d'être un petit peu structuraliste, je pourrais dire, pour moi, le problème, c'est un peu comme la séparation des pouvoirs pour la démocratie, c'est la définition des champs. Parce que ici, comme là-bas, le problème, c'est que de regarder la littérature comme une autre forme de faire la politique. Ou les sciences sociales comme une autre forme de faire la politique. Et quite often, the politicians come and say, would you please help us out with something we cannot do with our own resources? And so this is a struggle for defining the proper camp. Which again, running risks, I would say it's not left and right. It's a different way looking at the society. And why is that Philip Roth, for instance, can write whatever comes to his mind, while an African writer has to prove his own Africanity before, you know. So that's when, and it's not the fault of the rest of the world. It's also our fault. So it's when that separation is clear, when the business of literature is the business of literature, and that doesn't mean that literature is not engaged in some sort of way, but it is engaged, but it's engaged in its own business. And when it's not asking permission to breathe, to exist. And that when that becomes clear, things will be much easier, I think, easier. And a last note for also a very interesting tension still existing between the collective and individual in the case of Africa, because the collective, it's very genuine, very entrenched, very strong way of looking into things and to reality. But literature is something new in the modern, since Chinua Achebe, I would say, and it's an individual business. So it requires to cross that bridge and become an individual voice. That's one of the main problems. Thank you.
Peut-être juste pour revenir sur la question de l'importance de la fiction. En fait, il y avait une blague en Union soviétique qui circulait, qui était les historiens font de la fiction, les cinéastes font de l'histoire. En tout cas, c'est vrai que, et du temps de l'Empire, et du temps de l'Union soviétique, et même après, l'espace fiction est important comme un espace de discours et un espace dans lequel on peut encore véhiculer certaines idées, sachant que l'espace politique est complètement cloisonné, en fait, et par une langue de bois. Et donc même récemment, quand j'étais en Ouzbékistan à travailler dans les archives, il y a une personne qui avait fait un travail important sur le mouvement Basmachi, donc un mouvement insurrectionnel anti-soviétique dans les années 30. Et donc il avait fait son livre en se basant sur des archives. Il a demandé l'autorisation au très officiel Institut d'Histoire pour la publication, qui a été refusée. Et du coup, il en a fait un roman historique. Merci.
Je vais passer la parole à la salle, mais pas plus de 10 minutes au total. Donc ce que je vous demanderai, c'est de ne pas nous faire des interventions nouvelles, mais plutôt de poser des questions aux participants du panel de cet après-midi, mais éventuellement aussi aux participants des autres panels, puisque c'est la dernière séance. Qui veut poser une question ou alors faire une très brève intervention? Oui, Sanjay.
En fait, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion un peu plus large sur ce qui a été dit dans ce panel, mais plus généralement quelque chose qui est revenu maintes fois, mais qu'on n'a pas tellement poursuivi. En fait, le problème, c'est aussi un gros problème, c'est de savoir comment, à la fin ou à la prétendue fin des empires, on trace des frontières dans les sociétés, entre les sociétés, entre les systèmes politiques. Et c'est ça qui donne plusieurs types de solutions. Les partitions que les Britanniques ont beaucoup pratiquées en Irlande, en Palestine, en Inde, qui donnent aussi les guerres civiles, qui donnent d'autres types de conflits, qui sont souvent aussi des fois des manières de justifier ex post facto la Pax Imperiale, en disant, voilà le bordel, hein, maintenant qu'on est parti. Et j'ai maintes fois entendu ça au Portugal, quand les Portugais réfléchissaient sur la situation, surtout en fait, beaucoup plus sur l'Angola que sur le Mozambique. Comme si ça justifiait en quelque sorte ce qu'ils avaient fait. Et je pense qu'il y a là un problème qu'on peut tracer en utilisant des exemples venant d'empires différents, des modèles qui ont été transportés d'empire en empire, des choses qui ont été transportées à l'intérieur d'un empire même, et finalement aussi le gros problème de savoir, par exemple, quelque chose que moi j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Quelle est finalement la différence, par exemple, entre une guerre civile et, par exemple, ce qui s'est passé en Inde en 1946-1947 Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça une guerre civile? C'était une forme de guerre, guerre civile, beaucoup plus meurtrière que beaucoup, qu'une grande partie de ce qu'on appelle des guerres civiles. Donc, je pense que ça serait, quand on pense à ce moment, comme une espèce de décompression. Et d'ailleurs, même l'exemple d'Éthiopie et d'Érythrée, ça nous fait revenir sur cette question. On voit qu'il y a là quelque chose qui est un problème à aborder. Et je sais qu'il y a des gens qui s'appellent les spécialistes de partition studies. Je ne crois en rien à ça. Il n'y a rien qui s'appelle partition studies. Mais il y a une vraie question là.
Oui, c'est juste une remarque en forme de provocation délibérée à propos du post-postcolonialisme de l'Inde et de la culture indienne.
Du post-postcolonial, pas du post-postcolonialisme.
Oui, enfin, du dépassement par la société indienne du post-colonialisme. C'est intéressant parfois de lire les journaux People comme Gala, etc. On y voit que Mittal a marié sa fille au château de Versailles, qu'il a loué le château de Versailles pour marier sa fille, pour célébrer le mariage en grand de sa fille, et qu'ensuite il lui a offert comme cadeau de noces une des maisons aristocratiques les plus chics de Londres dans un quartier chic de Londres. Voilà, c'est une simple remarque qui me fait penser que, quelque part, est-ce que vraiment c'est la fin de l'Empire ?
Non, mais
je maintiendrai le point d'interrogation, même pour l'Inde.
Le postcolonial n'exclut pas les nouveaux riches de mauvais goût.
Mais il aurait pu choisir sa maison ou son... Enfin, il aurait pu choisir le Taj Mahal.
Non, on ne fait pas de réception au Taj Mahal. Mais je saisis votre point de vue. Mais je pense que là, sur ce point précis, c'est vraiment le nouveau riche qui peut se payer les plus beaux symboles, c'est-à-dire en gros la maison la plus riche, la plus chère de Londres, et le château de Versailles. Donc, en ce qui le concerne, ce qui serait intéressant, c'est de voir si, justement, il n'y a pas une contradiction apparente, mais en fait, les deux volets, les deux lobes du cerveau, hein, celui de la globalisation, sur lequel il fait de l'argent, et puis de l'autre, celui qui vient d'une petite famille des marges du désert du Rajasthan et qui est devenu un des hommes les plus riches du monde. Et là, on a une espèce de clash dans l'espace de deux générations entre une situation lambda indienne et une situation globalisée. Donc chez certains individus, ça donne ce que vous dénoncez. Et dans ce cas-là, on peut effectivement, je crois, garder le point d'interrogation. Mais je ne dirais pas que Mittal est un symbole de la totalité de ce que j'appelle, moi, l'Inde postcoloniale.
Mais peut-être assiste-t-on à de nouvelles recompositions impériales qui sont structurées autour d'abstractions telles que la finance.
Là, c'est clair. Hein. On peut parler de l'empire Mittal sur le plan économique. Et probablement qu'aujourd'hui, les nouveaux empires, ce sont des empires financiers et économiques.
Il me semble que parler, par exemple, de la fin des empires, ça me paraît se bercer d'illusions, dans la mesure où le rôle des empires s'inscrit dans le temps et dans la durée. Je crois qu'après plusieurs siècles de colonisation, les habitudes sont bien ancrées dans les esprits. Et donc ça pose le problème, par exemple, des conséquences de cette colonisation qui ont encore des effets dans la mesure où la balkanisation de l'Afrique a encore ses effets pervers qu'on voit encore aujourd'hui. Quand un président de la République dit, par exemple, dans son discours en Afrique, à Dakar, par exemple, que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ça montre bien l'état d'esprit dans lequel cet empire tient encore à garder ses prérogatives. À telle enseigne que moi, je pense que déjà, Madame a parlé tout à l'heure de l'influence, par exemple, ou de l'orientation des prix ou une influence quelconque. C'est-à-dire que vous savez que les empires ont de l'imagination. Hein? Maintenant, je crois que s'instaure le néocolonialisme. Personne n'a parlé de néocolonialisme. L'Afrique n'est pas encore indépendante, puisqu'elle est toujours, orientée, et elle n'a pas sa monnaie, elle a du mal à créer son unité, alors que l'Europe est en train de s'unir, difficilement, mais sûrement.
Merci.
Je voulais dire que nous nous sommes rencontrés, Jean-Luc Racine et moi, il y a quelque temps, dans une brève réunion, et j'avais été fasciné par cette idée de post-colonisation. J'avais été fasciné et en même temps interpellé en me demandant si, dans certaines situations africaines, dès lors que nous avons accepté la pluralité des expériences coloniales, la pluralité dans le temps, dans les formes de la fin des empires, est-ce que ça n'est pas quelque chose qu'on pourrait peut-être creuser un tout petit peu plus loin. Donc on pourrait imaginer que nous proposions dans quelques temps deux journées sur un thème qui pourrait être lendemain d'empire, parce que on voit bien que nous avons souvent tendance à prendre l'empire français en Afrique comme le modèle achevé de l'impérialisme colonial en Afrique, ce qui n'est pas le cas, naturellement. On a bien fait de parler ici de l'Empire portugais, il y a l'Empire belge, et il y a des expériences coloniales très longues, comme au Sénégal, il y en a d'autres très brèves, comme au Rwanda ou au Burundi, et ces temporalités différentes induisent évidemment des effets sur ce qui se passe après la fin d'empire. Nous n'avons pas eu l'occasion non plus de nous interroger sur la floraison des discours qui ont été émis à l'occasion des cinquantenaires, où très souvent c'était non pas un discours sur le cinquantenaire de l'indépendance, ni sur l'indépendance lui-même, mais une sorte de regard après coup sur le phénomène colonial qui comportait dans beaucoup de cas le risque en noircissant les 50 ans des indépendances, en quelque sorte de délégitimer ce qu'a été le moment de l'indépendance en disant que finalement il n'y aurait pas eu d'indépendance. Or moi je plaide l'idée qu'il y a eu une indépendance, il y a une sorte de fin de l'Empire. Peut-être que dans certaines situations on est déjà dans quelque chose qui serait comme une période coloniale. Je pense en particulier à l'Afrique centrale, après le génocide du Rwanda, après les guerres d'Afrique centrale et du Congo. J'ai l'impression qu'il y a là toute une série de dynamiques, des dynamiques très locales, mais en même temps des dynamiques mondialisées, toute une série de processus qui n'ont rien à voir avec les élans de la période coloniale. Donc je proposerai à tous nos amis qui sont ici que nous essayons de réfléchir à quelque chose qui serait comme lendemain d'empire, pour lequel d'ailleurs nous pourrions inviter d'autres collègues qui travaillent sur des périodes encore plus anciennes, parce que autant je suis gêné par le fait que l'on découpe les périodes en pré et en post, pré-colonial, post-colonial, l'une des questions importantes pour nous, c'est de nous demander quand est-ce que finit ce post, puisque les processus historiques, ce n'est pas des postes, ce sont des dynamiques qui se cumulent, qui se transforment, et donc à un moment donné, il faut bien que l'on sorte de ce poste. Quels sont les outils que nous avons pour pouvoir mesurer ce passage du post-colonialisme, expression qui serait d'ailleurs à discuter, à quelque chose qui serait du post-colonialisme.
Là, je ne sais pas, Élie, si tu as vu récemment, ces jours-ci, il y a un documentaire qui est passé à la télévision où on montrait les investissements d'un barrage au Congo. Et on interrogeait des hommes d'affaires français qui étaient profondément choqués que la Chine avait remporté le marché. C'était quelque chose d'intellectuellement inadmissible. Vous rendez compte où on en est. Et donc là, on peut voir que mentalement, il reste quand même quelque chose de l'Empire en disant, mais quand même, ils sont un peu à nous et ils font ça, quoi. Et alors, aucun des contrats de tout cet énorme chantier n'était allé à la France.
Oui, une dernière chose, je finis en disant que, par exemple, au Congo, où la présence chinoise est très forte, le discours public populaire répond, nous avons déjà été colonisés, en quelque sorte, nous sommes vaccinés contre la colonisation et nous n'avons rien à voir à craindre de la part des Chinois puisque la colonisation, nous connaissons déjà. Donc, on n'est plus dans un discours postcolonial, on est dans quelque chose d'autre.
Merci beaucoup. Je vais abuser maintenant de ma position de président pour clore les entretiens que nous avons et puis passer à la dernière partie de ces deux journées avec la projection d'un film de René Vautier qui s'appelle Afrique 50. Alors, je vais en dire deux mots très rapidement. Il faut le contextualiser. Ce film a donc été réalisé par René Vautier. Il avait 21 ans. Il sortait de la résistance. À l'âge de 16 ans, il se battait dans la résistance française pendant la guerre contre l'Allemagne. Et il est parti avec un groupe de jeunes comme lui. Il était militant et étant militant, il a décidé qu'il ne voulait plus toucher une arme. Et donc, il a décidé que c'était la caméra qui allait être son arme. Et il s'est formé à l'école à l'IDEC, à l'Institut des hautes études cinématographiques, donc juste après la fin de la guerre. Et il est parti avec un groupe, avec un géographe, un historien, en Afrique, pour le compte de la Ligue de l'enseignement, et de façon à rapporter des documents filmés pour faire une exposition qui devrait circuler dans les écoles en France, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a une musique dans ce film, une musique qui est composée par Keda Fodeba. Keita Fodeba, né en 1921, est fusillé en Guinée le 27 mai 1969 dans un camp qu'il avait lui-même contribué à créer puisqu'il était devenu par la suite ministre de la Défense et de la Sécurité de Sékou Touré. Donc on voit là aussi des retournements d'histoire et des évolutions qui sont pas surprenants puisqu'on en connaît beaucoup d'autres. Alors, ce film, il a été réalisé dans des conditions assez difficiles puisque à l'époque, il fallait demander une autorisation selon un décret édité lorsque Laval, ce ministre de Pétain, fusillé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il a été avant la Deuxième Guerre mondiale ministre des colonies pendant un temps et il a publié un décret limitant justement les possibilités de filmer et de travailler dans les colonies. Et lorsque Vautier est arrivé sur le continent africain, il a eu tout de suite d'énormes difficultés. Il était accusé par le gouverneur du Soudan français de donner l'impression que vous filmez ce que vous ne devez pas filmer. Donc c'était le commentaire qui avait été donné à l'époque. Mais Vautier était têtu, était jeune, était militant. Et il a trouvé auprès des groupes qui se constituaient en Afrique occidentale des alliés au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire du Rassemblement démocratique africain. Et il a continué son travail. Il a été aidé en Côte d'Ivoire. Il a rencontré sur sa route Oufouette Boigny, dans le cadre du Rassemblement démocratique africain. Au Mali, il a été pris en charge par Modibo Keïta. Et puis, il a aussi reçu de l'aide de Kwame Nkrumah, qui lui a permis notamment de passer clandestinement la frontière avec la Haute-Volta. Donc on voit là se mettre en place un jeune homme plein d'idées, anticolonialiste, qui voulait faire passer un message par le film et qui rencontre toute une série d'acteurs vont être certains des acteurs que Georges Balandier a pu rencontrer par ailleurs lui aussi. Il va travailler une grande partie du temps dans l'illégalité et pour essayer de montrer ce qu'il a découvert sur le terrain, c'est-à-dire la grève des cueilleurs en Côte d'Ivoire, la grève des achats dans les magasins européens. Donc toute une série d'événements qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui, mais qui ont marqué les jours et les jours des populations d'Afrique occidentale en cette période des années 50. La grève des impôts et aussi certaines répressions des autorités coloniales qui ont conduit à brûler des villages, comme l'ont fait les Allemands à Oradour-sur-Glane, sur le territoire métropolitain. Donc Vautier était pris dans ce mouvement-là et il a tourné une cinquantaine de bobines au cours de ce séjour. Il a été arrêté, il a eu beaucoup d'ennuis. Et ces bobines sont sorties clandestinement par l'intermédiaire des étudiants africains qui venaient en Europe. Et chacun avait une bobine, donc 50 bobines qui ont voyagé par des chemins différents pour arriver jusqu'en France, jusqu'à la Ligue de l'enseignement. René Vautier lui-même a été fouillé à Dakar, a été fouillé à Marseille en arrivant, ils n'ont rien trouvé. Mais par contre, la police a saisi ces bobines à la Ligue de l'enseignement. C'était les négatifs, pas encore développés. Et c'est la police française qui a développé les bobines de René Vautier et qui a donc engagé une procédure contre lui pour donc... en prétextant de ce décret publié par Laval. C'était quand même fort pour un résistant, un jeune résistant, d'être condamné à l'appui d'un décret de Laval qui venait d'être fusillé quelques années avant. Bon, enfin, c'est l'histoire qui se fait là aussi. Et donc, Vautier sera accusé. Il réussira quand même à récupérer 17 des bobines. Les autres seront détruites, paraît-il. Je ne sais pas si on les retrouvera un jour quelque part, à Ivry, au fort d'Ivry ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il a récupéré 17 bobines et il a entrepris un montage clandestin dans l'école maternelle où travaillait sa mère comme institutrice en Bretagne, puisqu'il est breton. Et là, il a monté un film et 12 copies ont été tirées. Alors là aussi, clandestinement, parce que pour tirer ces copies-là, il ne pouvait pas le faire officiellement. Donc il avait des ennemis dans l'industrie du cinéma et ces bobines étaient mises à la suite d'un film porno. Parce que la police protégeait les films porno, donc n'allait pas vérifier les tirages des copies porno. Donc eh ben, on collait le film de Vautier à la fin, et comme ça, on tirait les copies, et il a pu obtenir 12 copies qui ont... C'était coupé avant. Hein. Et donc ce film a pu circuler assez largement. Ceci dit, Vautier sera quand même arrêté, fera un an de prison, accusé de violence et voies de fait sur la personne d'un représentant de l'autorité pendant le tournage illégal d'un film de cinématographie. Donc il sera arrêté en 1955, il sera mis en prison en France, en Allemagne, dans la zone sous contrôle français, en Allemagne. Et on sait l'histoire de René Vautier, qui est toujours vivant, que j'aurais bien aimé faire venir ici. Puisqu'il était un témoin lui aussi de cette période-là, mais c'était un peu compliqué pour des raisons financières. Par la suite, il s'engagera aux côtés du FLN algérien et il sera l'un des premiers caméramans et cinéastes qui travailleront pour le FLN algérien pendant la guerre, de libération algérienne. Et puis, il est réalisateur d'un film de fiction qui s'appelle 20 ans dans les Aurès, qui a été longtemps interdit en France, bon, que maintenant nous pouvons voir, qui raconte justement ce qu'est la vie de ces jeunes appelés du contingent dans le maquis algérien. Donc voici le personnage. Il a fait beaucoup d'autres films depuis. Il a fait des films sur, comme il est breton, sur les pêcheurs de Camaret, par exemple. Des films qui sont très, très étonnants sur les conditions de vie des marins pêcheurs et puis sur plus récemment sur l'écologie, etc., sur toute une série de sujets. Il a une filmographie assez longue. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que 40 ans après avoir eu tous ces ennuis-là, eh bien, le ministère des Affaires étrangères a récupéré les droits sur 20 ans dans les Aurès et par l'intermédiaire d'Intermedia, une société de diffusion de films français, eh bien, son film a circulé dans les ambassades de France, a été prêté pour montrer qu'en France, bien sûr, c'était l'époque où Mitterrand était président de la République, pour montrer qu'en France, il y avait des Français qui avaient lutté contre le colonialisme et que c'était une image positive de la France dans le contexte des années 80 qu'il fallait donner. Et d'ailleurs, une copie de son film lui sera remis officiellement par le ministère des Affaires étrangères en 1996 à Beaubourg. Et on lui a proposé de lui accorder le visa de censure, ce qu'il a toujours refusé en disant que son film avait très bien vécu sans visa de censure, donc il pouvait s'en passer jusqu'à présent. Donc voilà, dire rapidement quelque chose concernant... Il a eu un certain nombre de prix, oui, ce qu'il faut dire. Bon, bien sûr, c'est dans un contexte qui est intéressant. Là, il faut resituer ce film dans le contexte. Il a eu un prix dans les années 50 au Festival mondial de la jeunesse à Varsovie. Bon, on voit bien le contexte, mais vous allez voir le propos du film. Et ça rejoint certaines des questions qui avaient été posées par Capil le premier jour, mais aussi par des remarques qui ont été faites. C'est que, et ça rejoint aussi ce que tu as dit, Chloé, tout à l'heure, c'est qu'il y avait une volonté d'insérer ces mouvements politiques et sociaux dans le cadre de l'émancipation des peuples, en faire quelque chose au niveau mondial, et qu'il n'y avait pas du tout d'idée de libération nationale dans ce contexte-là. On est juste après la Deuxième Guerre mondiale, le moment où le mouvement communiste était présent au gouvernement en France, il y avait un contexte particulier. Donc on voit bien qu'il y a là il y avait la guerre froide qui s'installait. Donc là, il y avait un contexte tout à fait particulier. Les indépendances n'avaient pas été... Enfin, la plupart n'étaient pas encore un fait. Donc on voit bien qu'il y avait... Il y a quelque chose qui a bougé très vite à la suite de ça. C'est qu'on est passé de l'émancipation des peuples à la libération nationale et à la formation de l'État. Et là, on est dans une dynamique qui transparaît, je crois, puisque là, le film a été fait en 49 et 50, le tournage. Voilà. Alors, si vous voulez, on va le regarder. Et bien, il fait une demi-heure.
Merci,
voilà.
Monsieur, parce que je ne vous avais pas donné de texte. Vous avez posé des
blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. Voilà un ambassadeur. Pas très rassuré quand même. Et puis les voilà tous. Ils t'examinent, te détaillent. Attention, il tire la langue, l'examen est favorable, tu es adopté. Ils accepteront peut-être de te servir de guide dans leur village. Suis-les. Tu verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. Maman va se marier. Ses amis l'aident à préparer les briques de pisée avec lesquelles il bâtira sa case. Mais à chaque tornade, la case aura besoin de sérieuses réparations.
On ne va pas faire un autre discours. Je n'avais pas vu ce film de... René Vautier, qui est un film important parce que il nous rappelle, entre autres, que dans les acteurs et les artisans de ce que nous avons appelé fin d'Empire, il y a naturellement dans les pays colonisateurs toutes ces personnalités, ces organisations, ces associations qui évidemment ont beaucoup contribué à mettre un terme au colonialisme. Nous avons là aussi un exemple de langage artistique avec ce qui a été dit tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de taux de profit, on n'a pas toutes ces choses, mais nous avons là un souffle, une parole vraie, des images qui décrivent la situation coloniale, pour reprendre le concept de Georges Balandier, avec une vérité, avec des outils qui sont autres, mais qui nous permettent de mettre vraiment le doigt sur cette réalité. Moi, je rêve d'un jour où chacun de nous, s'étant équipé de ces outils, pourra soit devenir romancier, soit prendre une caméra, ou trouver un réalisateur pour lui permettre justement d'utiliser la multiplicité des langages, et notamment de passer par ces langages qui ont peut-être moins de contraintes que les nôtres et d'autres exigences, et qui permettraient en effet de donner à voir les réalités dont nous parlons. Je ne pense pas trahir le point de vue de mes deux camarades, Catherine Amadeira Santos et ah mon Dieu, Jean-Claude Penrad, sur le fait que ces trois demi-journées, je pense, ont vraiment bien répondu à ce que nous voulions faire, qui n'était pas, comme Catherine l'a dit, des comparaisons encore moins un bilan et encore moins encore une commémoration, mais qui nous a permis, on l'a bien vu, d'esquisser toute une série de pistes. Alors je ne sais pas si je peux m'engager à quelque chose, peut-être à ce que ces différents textes, naturellement, comme il se doit, deviennent un livre et ouvrent des chantiers pour le futur, peut-être aussi avec ces quelques moments de provocation, ce mot a été utilisé par Catherine Atlan, cela nous donne des éléments de rencontre ultérieure. Moi, je pense véritablement que l'école est l'un des endroits où des générations différentes, des compétences différentes, des disciplines différentes, des postures différentes peuvent et doivent se rencontrer pour que, justement, de ces confrontations naissent à la fois les urgences sur lesquelles nous devons travailler, des consensus qu'il faut aussi créer. Et je pense que de ce colloque sortira aussi quelque chose, dans peu de temps, je ne sais pas, disons 2 ans peut-être, une autre rencontre avec ceux qui sont là, avec d'autres plus jeunes qui seront docteurs à l'époque, pour que nous puissions continuer à partager ensemble.
Merci. Juste un mot. Renouveler ce que tu as fait, Katharina, hier. Nos remerciements à l'École des hautes études, au président qui nous a tout à fait soutenus dans cette initiative, à Jean-Paul Collen, directeur du Centre d'études africaines, qui lui aussi nous a vraiment encouragés et soutenus, à l'IRD, au centre d'études ottomanes, c'est au bac, bon, je dis le SIC, c'est plus simple, au CERSEC pour le monde russe, au centre de l'Asie du Sud et à la fondation de la Maison des sciences de l'homme, et puis à la direction de l'audiovisuel. Vous avez vu Philippe Kergrès qui, depuis hier à 2h, n'arrête pas de s'occuper d'un matériel pour enregistrer ces séances qui seront mises en ligne d'ici un mois et demi, je pense, hein, le temps d'écluser toutes les autres choses qu'il a en cours. Et puis, bien sûr, tous nos participants là qui ont bien voulu venir jusqu'ici et donner de leur temps et de leur effort pour que ces séances se déroulent très bien. Et puis, je suis très content d'avoir travaillé, qu'on ait travaillé tous les trois comme ça,
oui, oui.
En bonne entente pendant tout ce temps.
Le programme...